RCF.
Antoine d'Estombert, quelles sont les disciplines, les matières enseignées dans ces universités médiévales ?
Alors, les disciplines enseignées sont globalement au nombre de quatre. Il y a d'abord ce que l'on appelle les arts libéraux, qui sont un ensemble de disciplines héritées de l'Antiquité grecque et latine et qui se structurent autour de sept disciplines, ce que l'on appelle le trivium, qui est l'art des mots et qui rassemble donc la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et puis ce que l'on appelle le quadrivium, qui est cette fois l'art des nombres, dans lesquels on retrouve la géométrie, l'arithmétique, la musique et l'astronomie. Donc ces arts libéraux, c'est un art encyclopédique hérité de l'Antiquité, constitue dans les universités médiévales ce que l'on pourrait appeler l'enseignement propédeutique. C'est par là que l'on commence. Il faut d'abord faire un cursus. C'est l'initiation. Voilà, c'est la base. Même si les étudiants qui rentrent à l'université, pour les plus jeunes, à partir de 14-15 ans, ont déjà eu des enseignements de grammaire, très probablement dans des petites écoles auparavant. Donc le latin, qui est la langue qui est parlée et utilisée, c'est une langue qu'ils maîtrisent en entrant à l'université. Mais ce premier temps donc de formation, c'est essentiellement autour de ces arts libéraux, avec une inégalité laissée à la place de chacune de ces disciplines. La particularité de l'Université de Paris, notamment, et d'avoir survalorisé le trivium, l'art des mots, et au sein du trivium, plus particulièrement, la dialectique. La dialectique, l'art du débat, de la construction du raisonnement, c'est véritablement la grande mutation de l'enseignement à partir du XIIe siècle.
Et Paris est connu pour ça.
Et Paris est connu pour ça. Paris est connu pour la dialectique. On vient à Paris, comme le disait d'ailleurs Pierre Abélard lui-même, on vient à Paris pour entendre les cours de dialectique.
Il y a d'autres disciplines à ajouter ?
Alors, ça, c'est donc ce qui constitue et qui devient la première faculté à l'Université de Paris. Et puis ensuite, il y a trois autres disciplines dans les universités de type parisien. On les appelle les facultés supérieures, au sein desquelles on trouve la médecine, le droit, mais on devrait plutôt dire les droits, puisqu'il y a d'un côté le droit canon, qui est le droit de l'Église, et puis de l'autre côté le droit civil ou romain, qui est, lui, effectivement, l'apprentissage et l'enseignement du droit romain. Et puis enfin, reine des disciplines, celle qui vient couronner un cursus universitaire, la théologie.
Ces savoirs et ces enseignements se font à partir d'écrits ou bien on est essentiellement dans un enseignement oral ?
Alors, on est principalement dans un enseignement oral. Néanmoins, c'est un enseignement oral qui sert à transmettre l'écrit. C'est une des particularités de la période médiévale. Le livre est un instrument cher et donc relativement rare, difficilement accessible pour les étudiants. Et la première fonction de l'enseignement, c'est donc de faire passer le contenu des livres. Et donc, l'enseignement par excellence, la façon d'enseigner la plus ancienne, c'est ce que l'on appelle la lectio, terme qui en latin a donné à la fois lecture et leçon. On lit les textes, on lit les grands textes de façon à permettre aux étudiants tout simplement de les entendre, de les prendre en note et eux-mêmes de se les approprier. Donc c'est d'abord une transmission orale. Il y a néanmoins le rôle de l'écrit qui est fondamental. Quand on regarde les représentations, les enluminures, le maître est presque systématiquement représenté avec le livre. Le livre, c'est le support de l'autorité. Il accompagne le maître. C'est d'ailleurs un objet que l'on remet parfois lors des cérémonies de doctorat, symboliquement au maître, parce que ça signifie que maintenant, il est digne d'enseigner.
Vous avez dit que ce qui fait le prestige de l'Université de Paris, c'est son enseignement de la dialectique. Est-ce que d'autres universités comme ça en Europe sont connues pour une discipline particulière et justement sont courus, entre guillemets, à cause de cette discipline?
Oui, tout de suite vient à l'esprit l'université de Bologne. C'est l'université de droit par excellence. C'est une université qui est apparue à partir des écoles de formation juridique de notaires et qui s'est, dès le XIIe siècle, spécialisée dans l'enseignement du droit canon et du droit civil. Donc, quand on veut faire les meilleures études de droit, on va à Bologne. Et puis, dernière université qui tient sa réputation à une discipline en particulier, c'est celle de Montpellier, qui, elle, est née des écoles de médecine qui se sont développées là aussi dès la fin du XIIe siècle, qui est là aussi extrêmement réputée pour sa formation médicale.
Toutes ces universités que vous avez citées, Antoine d'Estambert, est-ce qu'elles ont des liens entre elles? Est-ce qu'il y a un contact établi pour peut-être se donner des informations sur les types d'enseignement, sur les méthodes aussi?
Alors, il y a des contacts qui sont d'abord liés à la circulation des personnes qui fréquentent ces universités, en particulier la circulation des maîtres. Les maîtres circulent, oui, tout à fait. On n'hésite pas à aller chercher parfois des maîtres dans certaines universités pour essayer de stimuler une autre université. Par exemple, en 1229, quand on essaie de fonder l'université de Toulouse, on va chercher des maîtres parisiens pour essayer de greffer cette université à Toulouse. On a l'exemple également dans la fondation, un peu plus tardivement, au XIVe siècle, d'université germanique, dans l'espace germanique, où là encore, ce sont des maîtres, parfois venant de l'université de Paris, qui sont à l'initiative de ces créations. Donc il y a des circulations de maîtres, il y a des circulations d'étudiants qui font qu'on n'ignore pas ce qu'il se passe, évidemment, dans toutes ces universités. La circulation, c'est aussi une circulation des textes et des savoirs. C'est aussi structurant de ce point de vue-là, et c'est pourquoi on peut dire qu'il y a véritablement une méthode universitaire partagée dans l'ensemble de ces universités et une façon de raisonner qui leur est propre et parfaitement identifiable.
Qui est propre à chaque université ou qui est propre au monde universitaire en général?
Qui est propre au monde universitaire en général. Alors on pourrait trouver des particularités,
ouais.
Des petites différences. Par exemple, je disais qu'à Paris, la dialectique était particulièrement mise en avant. C'est moins le cas à Oxford où on s'intéresse plus au quadrivium, on s'intéresse encore aux sciences naturelles. Donc il y a des petites différences, mais la méthode elle-même qui est fondée en particulier donc sur ce que l'on appelle la dispute, la disputatio, l'échange d'arguments contraires dans la perspective d'atteindre la vérité. Cette idée tout à fait fondamentale dans la dispute, dans le dialogue, eh bien, cette méthode, ce mode de raisonnement est caractéristique du monde universitaire. C'est celui qu'on a parfois baptisé comme étant la méthode scolastique. C'est quelque chose qui est partagé par les universités.
C'est ça la scolastique.
La scolastique, c'est cette méthode de raisonnement, c'est cette façon de construire son propos à partir des autorités que l'on discute, on avance les arguments contraires et on essaie de résoudre des problèmes en usant de la méthode dialectique. Donc oui, la scolastique, d'une certaine façon, c'est ça. C'est beaucoup d'autres choses, mais le point de départ, c'est cela.
Il y a des concurrences, des rivalités entre ces universités?
Absolument. Il y a aussi, évidemment, des rivalités institutionnelles qui sont aussi parfois des rivalités de discipline. Dès le début du XIIIe siècle, on voit le clergé parisien qui regrette que des étudiants trop attirés par l'argent décident de partir à Bologne faire des études de droit qui seront sans doute plus rémunératrices à la fin de leur carrière plutôt que de faire de la théologie. Donc il y a une concurrence de ce point de vue-là. Et puis, surtout, je dirais pour la fin de la période médiévale, à partir du XIVe et du XVe siècle, où on a une multiplication des fondations universitaires, où le recrutement de ces nouvelles universités est essentiellement, je dirais, local ou régional, viennent concurrencer le recrutement quasi universel de ces anciennes universités qui étaient Paris, Bologne, etc. Et ces anciennes universités acceptent très mal cette concurrence de nouvelles universités et critiquent très régulièrement le cursus, la façon dont on y fait des études, leur capacité à délivrer des grades très vite alors que les étudiants n'auraient pas satisfait rigoureusement aux obligations pour pouvoir y prétendre. Donc il y a une concurrence effectivement qui s'accentue à partir du XIVe-XVe siècle, à partir du moment où la multiplication des institutions universitaires vient, je dirais, sur le même bassin de recrutement, puiser les étudiants.
Est-ce qu'il y a des noms de maîtres à retenir ou à citer en tout cas?
Alors il y a évidemment énormément de maîtres dont on pourrait parler. Certains sont un peu atypiques dans le monde universitaire. On pense évidemment à Thomas d'Aquin qui est tout à fait particulier parce que Thomas d'Aquin appartient pas directement à l'université même s'il enseigne notamment à Paris. Mais en tant que dominicain, il est membre de ces studia mendiants qui se développent à la fois dans et à côté de l'université et qui créent aussi des crispations entre les maîtres issus du clergé séculier et ceux issus des ordres mendiants. Donc on pense à lui, mais bon, il y en a évidemment beaucoup. Robert de Sorbon est aussi tout à fait connu à Paris pour avoir fondé un collège qui est devenu réputé.
La Sorbonne.
La Sorbonne.
Dont on reparlera pour parler des conditions de vie des étudiants.
Absolument.
Un cursus universitaire, en moyenne, dure combien de temps?
Alors c'est variable, il peut être relativement court à partir du moment où on se contente d'obtenir le premier grade, la première maîtrise, qui est donc la maîtrise SR, les étudiants ne pouvaient y prétendre à Paris qu'à partir de l'âge de 21 ans. Il fallait avoir
atteint
l'âge de 21 ans pour pouvoir prétendre à la maîtrise SR, sachant que ces étudiants pouvaient être rentrés à l'université pour un cursus complet dès l'âge de 14-15 ans. On avait une première étape qui devait durer autour de 6 ans. Bon, ce sont des chiffres tout à fait théoriques issus de la littérature normative des statuts. En réalité, quand on a des parcours précis où on peut suivre les étudiants, on se rend compte que c'est souvent beaucoup plus souple. Une fois ce premier cursus, on pouvait accéder donc aux facultés supérieures et là aussi, la durée des cursus était variable, 6 à 8 ans pour les facultés de droit ou de médecine. Et puis la plus longue, c'était la faculté de théologie, puisqu'on ne pouvait pas devenir maître en théologie avant d'avoir atteint l'âge de 35 ans.
Ce qui était assez âgé pour l'époque.
Ce qui était un âge qui permettait un certain respect de la personne et une certaine maturité qui était attendue de la part d'un théologien. Donc, on peut imaginer que quelqu'un entrait à la faculté des arts à 15 ans, sortant maître en théologie à 35 ans, avait passé une vingtaine d'années à l'université.
Une tranche de vie.
Une tranche de vie.
Merci beaucoup, à demain.